Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Alors AVS, ça veut dire à votre santé. Bonjour, bienvenue, bon appétit si vous êtes à table, profitez-en. Et bon matin à tous. Et quand je dis bon matin, ça veut dire que Karima Chalibaou est avec nous. Bonjour Karima.
Bon matin, bon midi Philippe. Bon midi à nos auditeurs et auditrices. Contente de vous retrouver cette belle journée sera ensoleillée.
Alors il fait beau, mais alors oui. Vous n'êtes pas du tout du jeudi. Je ne sais pas ce qui nous a pris.
On est fous. Voilà. On a bien changé les choses.
Voilà,
en fait.
On a changé les choses. Voilà. Mais exactement. Vous êtes habitués à écouter Karima le mercredi, mais cette semaine, c'est jeudi que vous l'entendez. Vous pourrez d'ailleurs lui poser toutes vos questions en direct au standard tout à l'heure au 01 53 48 3000. Je vous rappelle, Karima, vous êtes psychothérapeute, coach parental et familial. Se libérer des relations toxiques.
Aïe, aïe, aïe.
On en parle ce matin. Et c'est vrai que le mot toxique est rentré dans notre vocabulaire, notamment Absolument. Pour parler des relations. On était en train de dire aux rantelles, c'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup, toxique.
Oui, on n'aime pas parce qu'en fait, il vient mobiliser tout un référentiel donc de nocivité, quelque chose de nocif, quelque chose de corrosif, quelque chose qui tue, en fait, qui nous empêche de vivre, qui nous empêche de respirer, qui va nous prendre à la gorge ou à la poitrine. Et donc, du coup, c'est dès qu'on donne ce titre-là, est-ce que tu es dans une relation toxique ? Alors attention, donc on vient mobiliser aussi l'emprise, la question de l'emprise, la question de la manipulation, tout ça. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on n'aime pas trop.
Il y a des modes.
En plus, il y a des modes.
Donc voilà, c'est vrai que maintenant, les relations toxiques, ça fait partie aussi des modes, au même titre que des PN.
Tout le monde, si on vient regarder. De toute façon, moi je dis tout le temps, on est toujours le toxique de quelqu'un. Dans le sens où quand c'est too much et quand on ne respecte pas ses limites personnelles, identitaire. Quand je dis identitaire, c'est-à-dire le sens du soi. Donc quand on ne respecte pas ça, soit vis-à-vis de soi, soit vis-à-vis de l'autre, et bien on se retrouve, on peut facilement se retrouver dans une relation qui peut être toxique. On va voir le degré de toxicité aussi.
Mais attention, tout n'est pas toxique. Un conflit, une mésentente, une situation conflictuelle.
Absolument.
Ce n'est pas forcément toxique. Absolument. C'est pas bien, ça fait mal, mais c'est pas toxique.
Exactement. Le conflit fait partie de la vie. On peut ne pas être d'accord et on doit l'exprimer, mais d'une manière qui soit plutôt assertive, c'est-à-dire d'une manière qui soit ni agressive, ni violente, qui soit plutôt d'une manière apaisée et affirmée. Donc souvent quand on va parler, c'est comme quand le net fleurit de tous ces tests. Vivez-vous une relation toxique? Alors une relation toxique, ça veut dire attention, est-ce que vous êtes codépendante ou dépendant? Est-ce que quel est votre niveau de bien-être émotionnel, de votre bien-être mental? Bref, tout ça. Et donc il peut y avoir. Alors, c'est là où il faut faire, en fait, la différence. Il peut y avoir une relation, à un moment donné, où elle va être conflictuelle, où il va y avoir des frictions, où il va y avoir des frottements, comme ça, pour amener la relation à évoluer. Et que si on se fiche dessus et on ne la travaille pas correctement, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de quoi a besoin cette relation pour grandir, eh bien on risque de se figer et de tomber dans un rapport en fait qui peut devenir toxique. Pourquoi ? Parce que soit une personne est dans le statu quo, il va avoir des réactions de passif-agressif par exemple, on a souvent ces cas-là, et avec l'autre qui essaye de tirer, qui essaye de faire quelque chose pour l'autre. C'est en ça que ça devient souvent toxique. Pourquoi ? Parce qu'on veut sauver l'autre, parce qu'on veut on veut qu'il change, et on veut, mais l'autre ne manifeste pas l'envie. Et ça, c'est souvent problématique.
C'est ce qu'on appelle les sauveurs toxiques.
Les sauveurs toxiques, exactement. Les névrosés, quoi. Voilà. Dans le triangle dramatique de Cartman, celui-là aussi, on en parle beaucoup. On veut sauver l'autre. On s'est dit, ah, mais avec moi, ce sera différent. Mais moi, j'ai vu ça. Alors, on peut se poser aussi la question, Philippe, qu'est-ce qui fait qu'on tombe aussi dans une relation toxique? Il y a pas des prérequis, je vais pas dire ça comme ça, mais il y a des traits de caractère, des traits de schémas, en fait, comportementaux et de schémas émotionnels qui nous amènent à tomber dans une relation qui peut devenir toxique. Vous voyez, notamment quand on veut sauver l'autre. On parlait du sauveur toxique, le névrotique, qui lui, il faut qu'il voit des victimes partout en fait. Et c'est une potentielle victime. Pourquoi ? Parce que ça vient nourrir lui son besoin de se sentir utile, le besoin d'être vu, le besoin de validation, le besoin de gratification. Et donc cette personne va voir des victimes partout. Et donc finalement, de se transformer le sauveur, vous savez, le triangle, là, à un moment donné, on joue un rôle. Hein. Donc on va caster, on va choisir le casting, qui on va recruter dans notre scénario de vie pour jouer la victime.
Alors il faut expliquer à tout le monde, hein, le triangle de Cartman. Donc,
oui, alors c'est un psychologue qui a développé, qui a fait ce... Ça vient de l'analyse transactionnelle. Dans les développements de l'analyse transactionnelle qui a été créé cet outil et cette vision, donc il vient aussi de la psychanalyse, Eric Berne qui était psychanalyste et qui a développé en fait ces différentes ce qu'il appelle l'égogramme, c'est-à-dire les différentes positions de vie dans lesquelles on peut se retrouver. Il y a le parent qui soit je suis en interaction avec vous, par exemple Philippe, et je me positionne, je prends la posture de parent, et donc ça va dépendre soit un parent normatif, c'est-à-dire celui qui va dire la règle, tu dois pas, il faut pas, et ou alors le parent nourricier, celui qui voit vos besoins et qui va venir les nourrir. Soit je suis un adulte, et donc c'est une personne qui connaît ses besoins et qui a réglé, c'est-à-dire qu'il y a une bonne moyenne, un bon équilibre dans le fait de régler entre ses besoins, formuler des demandes et vivre la vie qu'il souhaite. Et puis on a la troisième position qui est celle de l'enfant, qui va être soit un enfant rebelle, un enfant blessé aussi, ou l'enfant spirituel, on l'appelle aussi comme ça, ou l'enfant lumineux, et qui va justement répondre. Donc du coup, dans nos transactions, Eric Berne, il a travaillé là-dessus, et ensuite Cartman a développé en parlant des trois positions du triangle, c'est-à-dire soit on est sauveur, persécuteur ou bourreau, ou victime. Et donc c'est une espèce de danse qui se fait à trois comme ça, et où on va à un moment donné, on voit une personne en difficulté, elle part cette présupposition, je vais y arriver.
C'est pas facile à dire. Non, je sais, mais vous l'avez bien dit.
La présupposition qui est derrière, en fait, ce postulat de base qui est derrière le sauveur, c'est que on a besoin de moi et la personne qui est en face de moi n'est pas capable de s'en sortir ou n'a pas les ressources pour y arriver. Et donc, elle a besoin de mon aide. D'accord ? Et comment ça va s'exprimer, par exemple, dans la vie de tous les jours ? Vous voyez quelqu'un de perdu dans la rue, moi ça m'arrivait, moi je dis souvent j'ai transformé ma névrose de sauveuse en compétence en faisant le métier que je fais, voilà, et en comprenant l'articulation de tout ce qui se passe. Et donc par exemple quelqu'un qui est dans la rue qui est perdu mais qui ne vous demande rien et que vous allez lui dire ah vous êtes perdu, oui vous voyez ce que vous voulez aller, et puis vous allez commencer à lui indiquer la route. Donc ça part d'une bonne intention bien sûr, de l'aide, mais s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'intervention, voyez.
C'est la base.
Ça, c'est la base. Pas de demande, pas d'intervention. Ouais. Il faut laisser l'autre.
Si la personne ne demande pas à être aidée.
Exactement.
Vous n'intervenez pas.
On n'intervient pas parce que.
Même si vous croyez bien faire.
Et souvent, moi, je reçois beaucoup d'appels, dire oui, mais elle va pas bien, elle a besoin de ci, elle a besoin de vous voir. Oui, j'ai bien entendu, mais il faut que ce soit elle qui fasse la démarche et qui demande j'ai besoin d'aide. Et pour sortir, on en parlera tout à l'heure, hein, pour sortir de l'emprise quand on est dans une relation toxique, eh bien, la première étape, c'est de le reconnaître et de demander de l'aide. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire soi-même et des choses dont on a besoin d'être accompagné pour pouvoir s'en sortir.
Alors attention, hein, on parle de relation toxique parce que c'est la relation qui est toxique, c'est pas les individus.
Oui.
Il y a très peu d'individus toxiques.
Oui, ça c'est clair. Mais souvent, c'est parce qu'il y a un processus d'identification où la personne devient ce qu'elle fait.
Alors on peut être toxique pour l'autre aussi, peut-être ponctuellement.
Ponctuellement. Par exemple. Vous rencontrez quelqu'un qui a, comme disent les jeunes, alors je ne sais même plus s'ils disent comme ça d'ailleurs, qui a la loose, qui est dans une espèce de nébuleuse comme ça, et que quand il arrive, il est tellement chargé de négativité que ça devient toxique. Ça, c'est possible, hein, ça existe. Pourquoi ? Parce que la personne, elle a le nez sur le guidon, sur ses problèmes ou sur la difficulté de ne pas savoir. Moi, j'utilise souvent, Philippe, la métaphore, si vous voulez bien, je vais la partager quand je travaille sur ces problématiques-là. Je dis à la personne, imaginez que vous êtes en train de naviguer dans un bateau en pleine mer. D'accord ? Et les relations toxiques sont comme des tempêtes violentes qui frappent votre navire. Et ça arrive et paf, vous êtes balancé de ce côté et puis d'un autre côté. Bon, vous imaginez la tempête en pleine mer. Et à tout moment, vous risquez de chavirer. À tout moment. Et ces tempêtes, en fait, qui sont des tempêtes finalement psychologiques, elles peuvent en fait vous laisser épuiser, vider, désemparer, au bout du rouleau. D'accord ? Et vous cherchez désespérément un abri qui soit sûr. Donc imaginez, vous êtes en pleine mer et vous n'y arrivez pas. Et le fait d'avoir des répétitions, parce que souvent les personnes nous disent Oui, mais c'est pas la première relation que j'ai. J'arrive pas à rentrer en relation ou à construire une relation qui soit saine. Par opposition à la toxique, on parle de relation saine. Donc la personne vous dit, je n'y arrive pas. C'est toujours la même chose. C'est le casting qui change, mais le scénario, fois, c'est le même.
Ouais.
Donc soit on est rentré dans le triangle de Cartman, on est ce sauveur et on veut aider la victime qui se transforme à un moment donné en bourreau parce qu'elle va vous faire du mal et vous, vous devenez sa victime finalement. Voyez, donc finalement c'est une espèce de danse, on joue comme ça, à chaque fois on prend une position.
Mais pardon, donc, pardon de dire ça, mais si ce sont des processus qui se répètent, est-ce que le problème vient pas de nous?
Oui. Alors,
c'est compliqué à dire, hein. c'est compliqué à entendre pour la personne qui, elle, se sent victime. Hein.
Alors justement, moi je fais la distinction, Philippe, si vous me le permettez, entre, il y a deux sortes de victimes. Vous avez le statut victime, qui est un terme juridique. Vous avez subi une agression, un abus, une trahison, quelque chose. Et donc, bah, la loi dit que vous êtes victime de cette personne. Parce qu'elle a abusé de vous, elle vous a pris votre argent, elle a fait ceci ou elle a fait cela. D'accord ? Donc il y a le terme juridique, et une vraie victime. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas des vraies victimes. Et vous avez le terme psychologique quand on dit c'est une victime, c'est-à-dire qu'on présuppose, je reviens encore au postulat de base, qu'on pense qu'elle n'a pas les moyens de s'en sortir, qu'on pense qu'elle ne va pas y arriver, qu'on pense qu'elle va, qu'elle n'a pas les ressources pour y arriver, qu'elle n'est pas capable de s'occuper d'elle ou capable d'identifier ou d'analyser la relation. Donc, et d'ailleurs on le voit dans les attitudes. Il y a des personnes qui viennent, elles se disent « Oui, je suis victime de mon mari, victime de mon compagnon, victime de mes enfants, victime de l'école, victime de je sais pas qui, victime de mon chien, de mon chat et de tout ce que vous voulez. » D'accord ? Je suis victime et j'arrive pas à me dérouler, à sortir de là. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des intrications, il y a des mécanismes de défense qui se sont installés, de protection, et parce que peut-être que la personne a une faible estime d'elle-même et elle croit qu'elle ne peut rentrer que dans ces relations-là et qu'elle ne mérite que ce genre de relations-là. Et on a la victime qui, elle, quand c'est le terme juridique qui est utilisé, c'est pour ça que moi je demande toujours à mes clients patients, quand ils viennent, à mes consultants, ben, on fait la distinction. Oui, vous avez vécu une trahison. Oui, vous avez vécu un abus. Oui, vous avez été manipulé. Maintenant, on va sortir de là. Le terme, vous avez un statut de victime, mais vous n'êtes pas une victime.
D'accord, mais vous ne répondez pas à la question.
Alors,
c'est-à-dire, est-ce que le problème ne vient pas de vous?
Non, alors si, ben justement.
Est-ce que finalement, c'est pas vous qui transformez? Alors, je ne sais pas, hein, je mets des précautions. Est-ce que c'est pas vous qui finalement transformez une relation saine en une relation toxique?
Oui, alors, il y a une part de responsabilité. Parce que quand même, quand on dit, moi je trouve ça quand même assez difficile.
Mais c'est pour ça que c'est difficile de
dire à la personne, ah bah ouais, bah c'est ta faute, c'est toi, regarde comment tu t'es comporté avec lui, c'est toi qui as fait ceci, c'est toi.
Mais ça peut,
culpabilité derrière.
Si on prend la conscience que peut-être on peut être à l'origine.
Oui.
Voilà.
Mais être à l'origine.
D'un comportement, ça change des choses.
Mais vous savez, quand on est en interaction, c'est une boucle interactionnelle. Moi, par exemple, je vous dis quelque chose, donc, vous savez, il y a un présupposé en communication qui dit « ma communication n'a de sens que dans la réponse que j'obtiens ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je vous dis « Philippe, ouvrez la fenêtre » et que vous ouvrez la porte, la responsabilité, vous avez une part de responsabilité. Vous allez ouvrir la fenêtre au lieu d'ouvrir la porte, alors que ma demande, c'est « ouvre la porte ». D'accord ? Donc, moi, j'ai une part de responsabilité. Peut-être que je n'ai pas envoyé le message correctement.
Fallait me la montrer.
Et par exemple.
Voilà.
Exactement.
Fallait me la montrer.
Vous la montrer, dire, bah, tiens, tu peux ouvrir ou vous voyez ?
Ouais.
Donc, j'ai une part de responsabilité, oui, dans la manière dont je communique avec l'autre, dans ma manière d'être avec l'autre, qui va lui laisser penser ou croire qu'il peut ou ne peut pas faire telle ou telle chose. C'est la question aussi de quel est le sens du moi, le sens du soi que je me donne, de mon identité, et l'autre par rapport à moi. La question des limites. Je n'autorise pas cette personne à me parler de cette manière. Parce que quand vous l'autorisez, et ça s'apprend dès tout petit. Si dans mon entourage, quand j'étais petit enfant, que je voyais que les relations entre les adultes, il y avait un rapport de domination, par exemple, ou un rapport de manipulation, en fait, je vais l'imprégner. C'est-à-dire que je vais penser, je vais créer, on va dire, ah tiens, les relations, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, je vais reproduire la même chose.
Alors, si vous avez l'impression de vivre une relation toxique, de vivre dans une famille toxique, vous pouvez venir témoigner, poser vos questions ce matin au standard de Beurre FM 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Se libérer des relations toxique avec Karima Shadibaou. Vous pouvez poser vos questions au 01 53 48 3000. Alors désolé s'il y a un peu d'attente, mais il y a un petit peu de publicité. Donc, mais je vous promets, on prendra vos appels. Sur quels critères, Karima, on définit la toxicité d'une relation ?
Alors, la toxicité, elle va se retrouver en fait dans la manière d'être en relation avec l'autre. Hmm. Alors, s'il y a de la manipulation, c'est surtout en fait dans l'impossibilité pour vous d'être tel que vous êtes, en fait. C'est-à-dire que la personne avec laquelle vous êtes en relation, et si vous commencez à déterminer que ça devient toxique, c'est de dire, est-ce que je peux être moi-même quand je suis avec cette personne ? Mmh. À quoi ressemblent nos interactions ? Est-ce que ces interactions sont pleines de critiques, de menaces, d'insultes, souvent, on le voit hein, dans la manière dont on parle l'autre, c'est une manière un peu dédaigneuse. Mmh. Voyez ? Donc là, c'est ce qui va nous permettre en fait de voir comment l'autre me traite. C'est dans une relation, c'est important. Hein, ça, c'est vraiment important. C'est comment je me sens traitée. D'abord, il y a deux choses. Comment je me sens traitée et comment je suis traitée. Parce que parfois, on peut être traité d'une manière qui soit respectueuse, mais le ressenti peut être différent. D'accord ? Donc, je vais voir cette relation, comment la reconnaître, donc reconnaître que c'est toxique, parce que c'est une des étapes qui va nous aider à sortir de cette relation qui est toxique. Comment je suis traitée, est-ce que je peux être moi-même, est-ce que j'ai la permission d'être moi-même, les moyens de communication, comment communique l'autre avec moi, de quelle manière il me parle, d'accord, comment je peux, est-ce que quand je suis avec cette personne, je me sens, alors je vais dire ça, cette expression comme ça, pousser des ailes, ou bien je me sens être complètement recroquevillée sur moi-même parce que je peux pas être en expansion, c'est-à-dire me développer et croître dans cette relation. C'est tous ces petits indices-là qui vont nous aider en fait à comprendre et à se dire, tiens, comment je peux évaluer cette relation avant de tomber dans la toxicité ? Parce qu'il y a des étapes quand même avant de tomber dans la toxicité. D'accord ? Mais, c'est la question des limites.
Mais on ne s'en rend pas compte, en fait.
Non, on ne s'en rend pas compte, bien sûr que non. Ouais. On ne s'en rend pas compte. Pourquoi ? Quand la personne, elle vous demande quelque chose et puis elle le demande d'une manière mielleuse et doucereuse, elle va vous manipuler. Vous savez, comme font un peu les enfants, maman, quand ils se mettent à votre service et là, vous le voyez, hein, qu'il veut vous demander quelque chose. C'est vraiment la manipulation quand elle est utilisée pour obtenir ce que cette personne veut, celle qui est avec vous. Quand elle utilise la manipulation, quand elle utilise la flatterie excessive, vous savez, des choses que les enfants font, mais eux, c'est pas mal intentionné. Hein. Donc, il y a aussi la question de l'intention.
Mais ça commence souvent par de la flatterie.
Par de la flatterie. Ouais. Après la flatterie, ah, mais tu es extraordinaire, ah, mais tu es d'une intelligence subtile. Moi, je suis tombée une fois sur quelqu'un comme ça, et avec qui j'ai travaillé d'ailleurs, et jusqu'au moment où je me rendais compte que je pouvais plus être moi-même et que ma confiance en moi commençait à décliner. Et là, on a des alarmes qui s'allument à l'intérieur et qui vous disent, attention là, attention. Quand vous pouvez plus croire en votre voix intérieure, quand vous pouvez plus l'écouter, quand l'autre vous demande de faire des efforts pour être quelqu'un de valable. Mais qui est l'autre en face de vous pour qu'il puisse s'autoriser à vous dire des choses pareilles ? Il y a la flatterie, donc on l'a dit, il y a la culpabilisation. Le fait qu'à chaque fois que vous ressortez de cette transaction, on va dire ça, ou de cette interaction, vous vous retrouvez coupable. Coupable de quoi ? Vous savez, cette culpabilité, ce qu'appelle John Bradshaw, le docteur John Bradshaw, il appelle ça, quand il parle du travail de l'enfant intérieur, il appelle ça cette honte toxique, cette culpabilité toxique. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, elle s'installe quand on est enfant. Notamment, par exemple, quand les parents sont en train de se disputer. Je donne souvent cet exemple. Les parents se disputent. Et puis, l'interaction se passe comme ça. Il y a un conflit, puis il y a l'enfant qui est au milieu. Et l'enfant est en train de jouer avec ses jouets dans le salon et tout ça. Maman ou papa terminent, ils se séparent comme ça, donc le conflit n'est pas réglé. Et donc, ils s'énervent. Et ils se quittent comme ça. Par exemple, tu es dans une pièce dans la cuisine ou dans le salon. Et puis, le parent se tourne vers l'enfant et lui dit, et il décharge en fait sur l'enfant en lui disant, mais combien de fois je t'ai dit de ne pas jouer ici ? Combien de fois je t'ai dit de ne pas poser tes jouets ici ? J'en ai marre ! Et puis il prend, il jette le truc à travers pièce. L'enfant comprend quoi ? Je ne suis pas à ma place. D'accord ? Parce que la question de la honte, c'est quoi ? Si je ne veux pas être vue et je ne suis pas à ma place. Et donc, l'enfant va imprégner quoi ? déjà qu'il est responsable de la dispute de papa et maman, parce qu'en plus il est en train de jouer là dans le salon alors que normalement il joue dans sa chambre. En fait, il y a une distorsion qui se crée. C'est quoi une distorsion ? Un événement, on vient le corréler à un autre événement qui crée cette espèce de distorsion de lien cause-effet. Mmh. Ceci entraîne cela. Et donc, le fait que je joue dans le salon a entraîné la dispute entre papa et maman. Et voilà comment s'installe cette culpabilité toxique où on se sent responsable du bien-être de l'autre. Et c'est en ça que ça devient toxique, parce que je ne suis pas responsable, Philippe, je ne suis pas responsable de votre bien-être. Je peux l'améliorer, oui. Je peux, et vous avez le choix, en fait, de choisir. Vous avez la liberté, je vais le dire comme ça plutôt, oui, de choisir qu'est-ce que je veux laisser m'impacter. Qu'est-ce que je laisse m'impacter ? Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire.
Si, ça va.
Si, ça va.
Ouais, c'est bien.
Est-ce que, vous voyez, parce que des fois, quand on parle comme ça de l'inconscient, la syntaxe n'est plus respectée. Donc, c'est qu'est-ce qui se passe ici ? Quel est l'impact que j'ai sur l'autre ? Et l'impact, souvent, donc on va le vérifier, est-ce qu'il est positif ou négatif ? Est-ce que quand je vois cette personne, je me sens libre, légère, mes ailes se déploient, je me sens grandir ? Ou bien quand je suis avec cette personne, je me sens me rapetissir, je me sens me rabougrir, je me sens rétrécir, hein.
Ouais, me contracter.
Me contracter, voilà, c'était le mot que je cherchais. Donc c'est important d'écouter vraiment ce qu'on ressent par rapport à une relation. Parce qu'une relation, c'est pas juste un échange d'informations, c'est de quoi on l'injecte, cette relation. Qu'est-ce qu'on y met dedans ? Comment on la fait grandir ? Comment on la fait aussi se rapetissir ? D'accord ? Donc, on a parlé de la flatterie, de la culpabilisation, les menaces, je l'ai dit. Il y a aussi le contrôle excessif. Ça, c'est en ça que la relation devient aussi toxique. Tu es où et avec qui ? Vous savez, on installe maintenant sur le téléphone avec les enfants ou avec le compagnon aussi la géolocalisation où, voilà, vous échangez et puis dire, ah ben tiens, je sais qu'elle est là, elle se déplace. Moi, je trouve ça horrible. Il ne faut pas faire des trucs pareils. Même avec vos enfants, parce que sinon, on vient toucher à quelque chose qui est de l'ordre de la confiance, et donc on crée une faille. Pour moi, on crée une faille. Je veux construire la confiance, que ce soit avec mes enfants ou avec mon compagnon ou ma compagne, eh bien, il y a un minimum de confiance, de la confiance sociale, ce qu'on appelle, quel est mon niveau de confiance avec toi ? Si je te piste sur ton téléphone, parce que c'est tentant, l'être humain il est comme ça. On va vouloir aller chercher, tiens, c'est quoi son parcours de la journée ? Elle était là, elle est repartie là, il ou elle. Hein. Donc la plupart du temps on dit non mais c'est pour ça me sécurise, parce que ça me rassure de savoir où tu es. Mais rassure-toi d'une autre manière, parce que là ça s'appelle pister.
Oui.
C'est pas rassurer, bon, c'est autre chose.
Les gens qui se séparent parfois continuent à se pister, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit
exactement,
en géolocalisation.
Exactement.
On continue à pister l'autre.
Moi, de toute façon, moi, sur mes téléphones, j'enlève toutes les applications où il y a des choses comme ça, ou en tout cas, parce que vous avez le choix, hein, de choisir ou pas ce que vous. On vous dit, hein, est-ce que vous voulez que l'application vous suive ? Moi, toujours non. Et aussi, les personnes, même par exemple sur WhatsApp, on le voit sur les réseaux sociaux. Ah oui, mais j'ai vu que t'étais en ligne et t'as pas répondu. Oui, j'ai une vie aussi. J'ai pas répondu parce que c'était pas le moment. Et ça, je trouve, en fait, il y a une envie d'avoir un contrôle sur la personne et de dire.
Tout le monde le fait maintenant.
Mais bien sûr, tout le monde le fait. Mais c'est pas parce que tout le monde le fait que ça veut dire que c'est bien. Ça crée encore plus de. Alors, on va parler des conséquences quand même de la toxicité. J'arrive pas à le dire. Donc, le contrôle excessif, on l'a dit. Mais qui va générer quoi chez l'autre ? Du stress et de l'anxiété. Et ça, c'est déjà, on est dans un climat hyper anxiogène avec tout ce qui se passe dans le monde. On n'a pas besoin de se rajouter ça. Voyez ? Donc, ce contrôle excessif, il va se faire, je veux savoir où tu es. Et une fois que je sais où tu es, mais pourquoi t'as été là-bas ? T'as pas besoin de ça. Vous savez, le fameux, on va vous contrôler et on va vous isoler. De dire, mais pourquoi t'as été prendre le thé chez un tel ? T'avais pas besoin d'aller là-bas ou t'as été faire les boutiques, mais t'as pas besoin de chemise, t'as pas besoin de chaussures. Regarde avec tout ce que tu as, et tatati et tatata. Et du coup, ça va insinuer en fait cette espèce de doute. D'accord ? Un autre point qui peut vous aider, donc c'est un packaging de tout ça, c'est la personne est égocentrée. Elle est égocentrée, ça veut dire que elle est le centre du monde, donc celle qui insuffle de la toxicité dans la relation.
On va dire le manipulateur, si on veut.
Oui, voilà, le manipulateur.
Entre guillemets.
Et voilà. Bah. Et en même temps, Philippe et le manipulateur, ça fonctionne que parce que vous êtes manipulable, parce qu'il a repéré vos défaillances. Par exemple, moi, quand j'ai étudié mon cas personnel et de qu'est-ce qu'il fait, parce que moi j'ai un flair quand même assez aiguisé. Une acuité assez sensorielle, assez aiguisée pour repérer, voir les manipulations. Et là, je ne l'ai pas vu, en fait. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on appelle l'excès d'empathie. Quand vous avez aussi un excès d'empathie, quand vous dites, oui, mais avec moi, ce ne sera pas pareil. Donc, on revient au sauveur. Hein. Vous dites, non, mais la personne vous fait de la peine. Donc, on n'est plus dans l'empathie, on est dans la pitié. La différence entre l'empathie et la pitié, l'empathie, vous savez que la personne peut s'en sortir et qu'elle a les moyens. C'est juste qu'elle pense qu'elle n'a pas les moyens de se sortir de là où elle se trouve. La pitié, c'est que vous vraiment, la personne est démunie. C'est-à-dire que vous pensez qu'elle n'a pas les capacités cognitives et émotionnelles et comportementales pour s'en sortir. C'est-à-dire que vous êtes l'indispensable. Et c'est là où c'est en ça que c'est égocentré. De la part de celui qui veut sauver et de celui qui est le manipulateur, entre guillemets, ou la manipulatrice, qui va dire, en fait, elle est le centre du monde, quoi. Elle ne tient pas compte des besoins de l'autre, ni de ses sentiments. Non, ce qui est important, c'est. Et puis quand vous lui montrez du doigt son erreur, alors là, c'est des virtuoses dans le renversement de situation. Comment vous devenez... Non, mais en fait, non, ce que tu n'as pas vu, c'est toi, dans ta manière d'analyser. Tu n'as pas la bonne analyse, ou tu n'as pas le bon ressenti, ou tu n'as pas eu le bon comportement. Donc, c'est les trois trucs, hein. On y va. Hein. Ta tête, ton cœur, ton corps. Tout ça ne va pas. Vous voyez ? Et donc là, vous remettez en question, et là, les failles, le travail de sape commence, où votre confiance en soi va se retrouver à ras les pâquerettes ou en dessous du niveau de la mer. Ouais. Voilà, vous voyez ? Que le processus, et puis si vous y ajoutez cette personne manipulatrice qui est instable émotionnellement, d'accord, vous la voyez, moi il m'arrivait des cas où je voyais la personne, elle parle avec les autres et elle est dans une espèce de joie de communication, une espèce de, et puis dès qu'elle arrive avec vous, elle fait la tête, pour pas dire un autre mot, le 11 là qui se crée, vous savez là, comme ça,
entre les deux yeux,
ouais, on a la radio, Philippe, ouais. Entre les deux yeux, mes enfants appellent ça le 11, la ride du lion, on l'appelle aussi comme ça, et puis vous dites, alors qu'est-ce qui se passe là, il y a deux secondes, il riait, t'es bien avec les autres, et puis avec moi je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et donc ça, il y a comment on inverse la vapeur, vous voyez? Donc cette instabilité émotionnelle, les critiques constantes, on l'a dit, et le double discours. À vous, il vous dit quelque chose, et à l'autre, il dit autre chose, exactement l'opposé. Et vous vous dites, mais non, mais moi, c'est ce que tu m'as dit. Ah non, c'est toi qui as mal compris. Moi, j'ai bien dit les choses, mais c'est toi. Ah, ben, il faudrait que tu vois un petit peu, toi qui es une experte du comportement humain, il faudrait que tu ailles voir un petit peu. Alors, du coup, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai loupé, quoi? Qu'est-ce que j'ai manqué? Donc, en fait, quand vous avez affaire, quand il y a un empathique, un débordement empathique, on va dire ça comme ça, la personne va remettre la faute. La faute, il y a l'idée derrière d'une faute morale. L'erreur, je préfère dire l'erreur. L'erreur sur soi. Et de dire, en fait, c'est moi qui n'ai pas bien fait. En fait, j'ai pas les codes et voilà.
C'est encore de ma faute.
C'est encore de ma faute. Et on répète, et on répète, et on répète. Et c'est ce qui nous amène à cette fragilité quand on est dans une relation toxique. On devient fragile.
On verra tout à l'heure comment en sortir. Je rappelle que si vous pensez être dans une relation toxique, que ce soit amicale, amoureuse ou familiale, vous pouvez venir témoigner au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, se libérer de la culpabilité ce matin avec Karima Chadibaou, 01 53 48 3000, si vous voulez intervenir et témoigner sur les relations toxiques, si vous avez l'impression de vivre une relation toxique en amitié, dans votre famille ou en couple. Eh bien, vous êtes les bienvenus au 01 53 48 3000. Alors, quelles sont les différentes étapes de la libération, Karima?
Alors, on en a donné deux tout à l'heure. Pour en même temps qu'on veut en sortir, en fait, il faut travailler sur deux. Enfin, moi, j'y travaille comme ça. Je vais clarifier ma pensée sur deux niveaux. Ça veut dire qu'en même temps que vous reconnaissez qu'il y a de la toxicité dans la relation, et ça, c'est important parce que c'est ce qui va vous permettre de vouloir en sortir. Le fait de vouloir en sortir, n'est pas, c'est pas automatique. C'est pas parce que je décide et que je veux en sortir que je vais y arriver. D'accord, parce que c'est vraiment, c'est comme un espèce de bourbier dans lequel on est emprisonné.
C'est paradoxal en fait.
C'est paradoxal parce que pour reprendre la métaphore du bateau, c'est que vous êtes dans la tempête et vous avez en fait ces tourbillons en fait. Et le tourbillon, quand on est pris dans le tourbillon, on n'arrive pas à en sortir. Qu'est-ce qu'il faut pour sortir d'un tourbillon? Parce que ça va dans tous les sens. Vous imaginez comme une tornade à l'extérieur sur la terre et le tourbillon dans la mer qui vous emmène dans les abysses. Mais en fait, il y a un moment donné où il faut, c'est ce qui fait partie en fait de le fait de reconnaître que vous êtes dedans, c'est-à-dire que vous allez lâcher prise dans ce sens-là. Pas lâcher prise de dire ah ben c'est foutu, c'est pas ça lâcher prise. Lâcher prise, c'est dire ok, je suis, reconnaître que je suis dans une relation toxique, que je suis dans une relation peut-être de dépendance émotionnelle. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à en sortir? C'est parce qu'on a aussi peur de l'inconnu, surtout si on a vécu que ça. Dans nos relations. Et qu'on se dit, ben en fait, mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, je sais que les relations, c'est comme ça que ça se passe et que c'est souvent comme ça. Comment je vais. Peut-être. Je ne sais pas comment peut être une relation, comment elle peut être différente. D'accord? Donc, c'est-à-dire une espèce de condamnation à se dire que, ben, de toute façon, ça a toujours été comme ça et ce sera toujours comme ça. Donc, la première étape, c'est reconnaître la toxicité, d'accord? Que cette relation est toxique et qu'elle ne me fait pas du bien. D'accord, qu'elle ne me fait pas du bien. La deuxième, donc l'accepter, ça vous l'avez compris. D'accord, et je vais, troisième étape, rechercher du soutien.
Bien.
Le soutien à l'extérieur.
Alors Hicham est venu chercher du soutien au 01 53 48 3000. Hicham, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour Hicham.
Bonjour, oui. J'appelle s'il vous plaît parce que je suis dans une relation...
Oui.
Où j'arrive pas, c'est-à-dire des fois j'ai l'impression que cette relation-là, elle est toxique ou d'un sens, en fait, c'est-à-dire j'arrive pas à déterminer si elle est toxique ou pas toxique. Comment on peut voir ça?
D'accord. Alors, Hicham, merci d'appeler. Et donc,
oui,
déjà, voilà. Donc c'est juste pour savoir, est-ce que c'est votre compagne, c'est ça?
Oui.
Ou c'est une relation de travail?
Non, c'est une compagne.
C'est votre compagne, d'accord.
Oui, c'est une rencontre.
D'accord.
C'est quelqu'un de super, super bien. Mais j'ai l'impression qu'il a un caractère qui va s'imposer tout le temps.
D'accord, ok.
Et voilà.
D'accord. Donc le fait... Alors,
il a tout le temps raison, en fait.
Oui, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à trouver un moment où vous pouvez vous donner votre point de vue, donner votre avis et exprimer ce que vous pensez, ce que vous ressentez.
Exactement.
Donc là, alors...
Oui,
allez-y.
Il va finir par avoir raison à la fin, même si on arrive à discuter longtemps.
D'accord.
Mais il va toujours à la fin.
Oui.
Comme vous dites tout à l'heure, il va se mettre une idée dans la tête.
Oui.
Après, il va chercher du soutien à l'extérieur pour dire qu'il a raison et après, il fonce.
Oui, parce que le manipulateur a des complices, hein, justement, pour valider ses idées. Donc,
Exactement, parce que le manipulateur va utiliser le tissu social, les gens qui sont autour, comme vous l'avez dit et comme l'a dit Hicham, pour dire, regarde, moi je suis quelqu'un de bien, mais moi ce que je te demande, c'est pas grand-chose, je te demande pas la lune, voilà. Et en fait, c'est ça, hein, c'est ce que vous êtes en train de dire.
Oui, je dis.
Voilà.
Oui, mais comme je dis, il va toujours aller vers quelqu'un
qui va lui donner raison.
Qui va lui donner raison.
D'accord.
Et avec cette raison-là, il va vouloir s'imposer en disant que j'ai raison.
D'accord. Et vous, Hicham, comment vous voulez quoi dans cette relation?
Moi, c'est une relation que je tiens énormément parce que c'est quelqu'un qui a énormément de qualités.
Oui.
Mais il me fait peur, c'est-à-dire, voilà.
Donc voilà, même,
j'ai peur.
Vous avez, alors de quoi vous avez peur? Est-ce que vous avez réussi à mettre un mot sur qu'est-ce qui vous fait peur à vous? Même la personne est bien, c'est très bien. Mais vous, vous êtes en train de me dire que vous avez peur. Mais peur de quoi? Qu'est-ce qui pourrait se passer?
Je ne vais pas pouvoir supporter ça tout le temps.
D'accord, parce que supporter ça tout le temps, ça veut dire quoi pour vous?
C'est-à-dire, à un moment, je vais dire stop, et quand ça sera stop, ça sera fini.
D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce qui se passe dans votre processus, Hicham, c'est que vous la laissez gratter du terrain. C'est-à-dire que vous, vous repoussez vos limites.
Exactement. J'ai l'impression que c'est ça.
Et oui. Voilà. Donc, ne repoussez pas vos limites, parce que vous êtes une personne, j'ai l'impression, et en vous écoutant, que vous allez laisser du terrain, et à un moment donné, il y a un point de non-retour.
Vous êtes plus vous-même.
Vous êtes plus.
J'ai perdu deux relations comme ça. J'ai pas envie de perdre cette personne. Cette personne, j'y tiens énormément.
Eh oui. Alors, ce que vous pouvez lui dire, Hicham. Ce que vous pouvez faire. Déjà, avant de faire, d'agir avec elle, vous allez d'abord agir avec vous-même. C'est-à-dire que vous allez avoir de la bienveillance envers vous-même. Au lieu de culpabiliser et de voir le truc qui va arriver, le danger, c'est-à-dire, oh là là, je risque de la quitter, mais moi je l'aime et elle est bien, et elle, à part ça, elle a ceci, elle a cela, et tatati, et tatata, et ce que je n'aime pas, c'est ça et ça. D'accord, je n'aime pas ça. Elle a des qualités. Tout le monde a des qualités et des défauts. Maintenant, ce défaut qu'elle a d'avoir tout le temps raison, et ça veut dire que, en fait, elle veut prendre un peu du pouvoir sur vous. Et vous, ce pouvoir, c'est votre pouvoir personnel.
Ouais, enfin, ne pas avoir tout le temps raison, ça veut dire qu'on n'accepte pas que l'autre pense différemment.
Il y a ça. L'autre ne pense. C'est-à-dire que vous, Hicham, vous devez faire le point là-dessus. D'accord ? C'est quoi ? Le danger, vous le connaissez. La rupture. Vous ne voulez pas la rupture. Donc, avant d'arriver vers la rupture, il y a plein d'étapes. La première étape, c'est dire, ok, ma chérie, je t'aime beaucoup, mais là, il y a une limite. Je ne peux pas aller au-delà de ça. Est-ce que tu peux entendre ça ? Tu as ton point de vue, j'ai mon point de vue. Voyons comment nos deux points de vue peuvent se marier, faire alliance ensemble. Elle vous dit oui, bismillah. Elle vous dit non, dites ok, on peut coexister ensemble, être ensemble sans que ce soit la guerre. Vous voyez, parce que souvent, ces personnes-là, de ce que vous êtes en train de décrire, c'est soit t'es avec moi, soit t'es contre moi. Et vous allez lui dire non, je peux être avec toi tout en n'étant pas d'accord avec toi. Et là, vous allez apporter de la nuance. Vous allez apporter, c'est comme les couleurs. Vous allez apporter de nouvelles couleurs sur votre palette. C'est pas facile à faire, mais faites-le. Vraiment, ça, c'est pour moi, c'est le premier conseil que je vous donne. Et donnez-nous des nouvelles. Faites déjà ça et donnez-nous ensuite, dites-nous comment ça va se passer.
Merci, Hicham, de votre appel. Nous avons Camilla qui est avec nous. Camilla au 01 53 48 3000. Camilla, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour Camilla, bienvenue.
Merci.
Oui.
Je sais pas quoi dire en fait.
Ah, ben alors dites-le avec talent.
C'est compliqué parce que moi, il s'agit de ma maman.
Oui.
D'accord, mais qui votre.
Parce que quand c'est le conjoint, c'est simple, on quitte, on divorce, c'est réglé, mais quand c'est.
Quand c'est la famille.
Bah oui, quand c'est maman, on divorce pas de sa maman, c'est clair.
Alors pour qu'on.
Pour, maman, c'est
oui.
Sacré, on a choisi pas, mais c'est sacré.
Voilà, pour qu'on comprenne bien, Camilla, c'est votre maman qui est toxique, c'est ça ?
Elle est super toxique, elle est très envahissante, elle prend beaucoup de place, elle se met toujours dans la comparaison par rapport aux autres, même par rapport à mes propres enfants.
Ouais.
Elle joue sur sa maladie, elle joue sur les malheurs qu'elle a vécu dans le passé.
D'accord.
Que j'ai vécu moi aussi, parce qu'elle a perdu son mari qui est mon papa, son fils qui est mon frère.
Oui, donc il y a beaucoup de pertes. D'accord.
Donc,
oui, et puis vous êtes dans une.
J'ai perdu un autre frère l'année dernière et depuis, franchement, c'est très compliqué. J'essaye d'avoir de l'empathie, j'essaye de la comprendre. Je suis aussi maman de trois enfants,
oui.
Mais je ne comprends pas son comportement avec moi. Je ne le comprends pas.
Alors,
j'ai coupé les ponts depuis un mois.
D'accord. Alors, Camilla, le comportement qu'elle a avec vous, c'est quoi ? Concrètement, qu'est-ce qu'elle fait ?
C'est qu'elle se mêle de tout, elle donne des ordres, elle demande des choses qu'on ne peut pas, que je ne peux pas lui offrir.
D'accord.
Elle essaye même de demander des choses pour me faire, vu que, bon, comme toutes, pas mal de mamans, elle préfère les garçons aux filles.
Oui.
Donc, malheureusement. Elle a toujours besoin, me sollicite pour avoir des choses pour me faire, alors qu'ils sont mieux que moi financièrement.
D'accord. En fait, elle s'appuie, si vous me permettez, Camilla, elle s'appuie sur vous parce qu'elle sait que vous allez tout lui donner. Vous allez tout passer. Quand je dis tout passer, c'est-à-dire, elle sait pourquoi. Vous êtes posé la question, qu'est-ce qui fait qu'elle le demande à vous et pas à vos frères ? À vous et pas à votre.
Oui. Elle a toujours dit que je suis celle qui a le plus fort caractère.
Voilà.
La plus gentille.
Voilà. Donc, en fait, votre mère s'appuie sur votre empathie naturelle. Elle s'appuie sur votre envie de la rendre heureuse. Elle s'appuie sur votre générosité. Elle s'appuie sur votre capacité à vous remettre en question. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ?
Je ne suis pas la seule à qui elle fait ça.
Mais oui.
Elle fait ça à mon autre sœur.
Mais parce qu'elle est comme vous, peut-être aussi, votre sœur.
Mais comment elle le prend, votre sœur ?
Oui, c'est une bonne question, ça.
J'ai eu ma sœur qui me disait, j'en veux plus. Elle me disait, mais qu'est-ce qu'on va faire ?
Et comment elle fait, votre... D'accord. Donc, votre sœur a la même réaction que vous ?
Oui, elle nous demande de l'argent, elle nous demande des choses que des fois on ne peut pas faire parce qu'on est des mamans. C'est vrai qu'on travaille, qu'on a, on va dire qu'on a une situation financière stable, mais on n'est pas non plus riche. On paye les impôts, on paye les crédits, on paye pas mal de choses. Et elle, elle ne comprend pas.
Déjà, il faut, Camilla, que vous vous disiez déjà avec vous-même que vous faites le mieux que vous pouvez. D'accord ?
C'est ça. Quand je peux, j'aide. Quand je peux pas, j'aide pas. Mais elle, c'est du forcing. C'est limite...
Oui, c'est intrusif.
Parce qu'elle, elle est en aide.
Oui.
Elle appelle, elle dit, ouais, il faut ça, il faut ça. Vous voyez, telle dame, cette fille, elle lui donne tel cent par mois. Et pourtant, elle est bien financièrement.
Oui, oui, elle vous... Elle a la comparaison.
Elle va pas mal de bien. Elle est avec mes deux frères qui gagnent bien leur vie. D'ailleurs, un, c'est un milliardaire.
Oui.
Mais elle essaye de venir gratter chez nous.
Oui, alors dans ce cas-là, il faut vraiment, ça va être un peu violent pour vous parce que vous avez pris l'habitude d'agir comme ça avec elle, vous et votre sœur, et il va falloir en fait faire une rupture. C'est quoi une rupture ? C'est pas couper les ponts. Moi, je suis pas pour couper les ponts parce que c'est quand même votre mère. Moi, je suis pas pour dire, c'est-à-dire que vous allez purifier le lien. Vous gardez le lien avec votre mère parce que quand vous coupez les ponts, c'est-à-dire que vous coupez tout. D'accord ? Là, vous avez, ça fait un mois, vous l'avez dit, que vous avez coupé. Donc, c'est bien. Pendant ce temps-là, avant de renouer le lien d'une manière plus saine, vous allez déjà réfléchir sur vous, votre manière d'entrer en relation avec elle.
C'est en ça... Écoutez, je l'ai fait plusieurs reprises.
D'accord.
Alors, je lui ai conseillé d'aller voir un psy parce qu'il n'y a pas que ça.
Oui.
Elle se met en concurrence avec mes enfants, avec mon mari, avec les tatas. Si elle se fâche avec une personne, je dois me fâcher avec, sinon c'est moi la mauvaise.
Oui.
Elle va dire aux autres que je suis mauvaise, que je n'écoute pas.
Alors Camilla, il faut pas, ne rentrez pas dans son jeu. En fait, elle vous recrute dans son jeu. C'est quoi être recruté dans son jeu ? Ça veut dire qu'en fait, elle trouve une résistance en face. C'est-à-dire qu'elle trouve une opposition ou en tout cas quelque chose qui vient résister et elle veut vous faire plier. Et le problème, c'est qu'elle gagne. Pourquoi ? Parce que vous avez un conflit de loyauté avec elle. Vous devez rester. Elle a perdu son mari, vous l'avez dit. Elle a perdu ses enfants, deux garçons, je crois, si j'ai bien entendu. Et donc, c'est-à-dire qu'elle vous fait tellement de la peine, votre mère. Vous avez de la peine pour elle que finalement, vous lui passez tout. Donc, mon conseil, ça va être celui-là. C'est installer, c'est-à-dire dites à votre mère, renvoyez-lui, faites reflet comme un miroir, renvoyez-lui, maman, j'ai bien entendu que tu as besoin de ça, 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 que tu veux ça, 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 mais moi je ne peux pas te le donner et je décide aujourd'hui, maman, et je t'aime de tout mon cœur et ça n'empêchera pas que je t'aimerai toujours, je ne peux pas te donner ce que tu demandes. Tu peux te taper la tête contre les murs, tu peux crier, tu peux me comparer aux enfants de la voisine, ce sera comme ça. C'est-à-dire être ferme et déterminée. Je sais que c'est pas facile, mais faites-vous des petits exercices et devant le miroir. D'accord, Camilla ? Parce que là, on me dit de me dépêcher.
Non, on vous dit ça ? Non, non, non. Merci, Camilla, en tout cas, pour votre appel, puisque dans un instant, c'est vos petites annonces avec Vanessa. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur YouTube.
Oui,
Karima, à très vite.
Absolument, à très vite.
Passez une très belle journée santé sur beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.